Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, nous ne sommes pas dans notre studio d'ici les Moulineaux, dans la banlieue parisienne, mais à Kinshasa, au plein cœur de la capitale de la RDC, à la halle de la Gombe, pour parler de l'économie de cet immense pays qu'est la République démocratique du Congo, 2 300 000 km², autant que tous les pays d'Europe de l'Ouest réunis, et seulement 80 millions d'habitants. La RDC, l'expression est souvent utilisée, galvaudée, c'est un scandale géologique. C'est un géologue belge, dit-on, qui aurait emprunté ce terme le premier au sujet du Katanga à la fin du 19e siècle. La RDC, c'est un pays très riche en minerais, mais avec une population très pauvre. C'est le cas aujourd'hui encore, malgré un super cycle des matières premières au début du siècle, et bien que la RDC contrôle l'essentiel des ressources mondiales d'un métal dont l'industrie a aujourd'hui grand besoin, le cobalt. Nous allons donc nous demander pourquoi cette population congolaise reste pauvre, pourquoi le pays n'arrive pas à se développer, avec trois invités que je vous présente maintenant. Tout d'abord vous, Hubert Punga, bonjour.
Bonjour.
Hubert Punga, vous êtes gérant de consulting, vous êtes gérant de Omega Vision, vous avez longtemps été banquier, vous êtes expert en économie internationale, et avec vous dans cette halle, un de vos confrères, Al Kitenjie, bonjour.
Bonjour.
Al Kitenjie, vous êtes économiste et stratège, directeur général de Innovation Task Force, une société donc de consulting, membre du collectif Makutano, qui rassemble des acteurs du secteur privé. Et je termine cette présentation par vous, Baraka Kabemba, bonjour.
Bonjour.
Baraka Bemba, vous êtes consultant chez EY, une grande société internationale très réputée qu'on appelait jadis Ernst & Young. Au cours de cette émission, nous entendrons, messieurs, ce que vous avez à dire au sujet de l'économie de la RDC, mais nous entendrons aussi des reportages réalisés par David Bachet, journaliste au service économique de RFI. David Bachet qui a sillonné la RDC au cours des dernières semaines. Quel reportage avez-vous ramené, David ?
Bonjour Jean-Pierre. Alors, je vous ai préparé 4 reportages. En vérité, j'aurais pu en tourner 10, hein, tant il y a de choses à raconter. Mais donc, j'ai choisi de me concentrer d'abord sur les difficultés quotidiennes des Congolais. Vous entendrez une habitante de Lubumbashi qui raconte comment elle se débrouille pour joindre les deux bouts. J'ai aussi consacré 2 reportages au secteur minier, le sous-sol de la RDC étant sa principale richesse, sur la réforme du code minier avec une redevance imposée aux industriels miniers qui vient d'être multipliée par 5 pour certains minerais stratégiques comme le cuivre et le cobalt. Ensuite, je me suis intéressé aux creuseurs, comme on les appelle ici, aux mineurs artisanaux qui travaillent dans le Haut-Katanga, dans des conditions assez terribles, hein, vous l'entendrez, et parfois très opaques. Et puis le dernier élément que je vous propose, c'est un entretien que j'ai eu de retour à Kinshasa avec le vice-président de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, en charge des PME, et lui me parle des attentes des chefs d'entreprise congolais pour développer leurs activités.
Alors David Bachet, est-ce que vous avez pu travailler librement ?
Bon, c'est vrai que ce n'a pas été simple, hein. D'abord parce que le contexte actuel est tendu, avec la date des élections présidentielles et législatives qui approchent, les incertitudes...
C'est au mois de décembre, à la fin.
Au mois de décembre, exactement. Les incertitudes donc liées à ces scrutins, tout cela génère une appréhension qui n'incite pas les gens à parler au micro. Et puis, il y a eu aussi des difficultés plus spécifiques lorsque j'étais dans le Haut-Katanga, et plus précisément lorsque j'étais du côté de Likasist, à 120 km au nord de Lubumbashi. Là-bas, j'ai voulu travailler dans des mines artisanales, et en dépit des autorisations qui m'avaient été délivrées par le ministère de la Communication, eh bien, l'accès m'en a été interdit par des agents de la police et de l'ANR, les services de renseignement congolais. Mes tentatives auprès des autorités locales et provinciales n'ont servi à rien. Mais bon, comme vous allez l'entendre, j'ai quand même réussi à travailler sans rentrer à l'intérieur des sites miniers, et cela, encore une fois, grâce aux autorisations qu'il a plu aux autorités de Kinshasa de donner à RFI.
Merci David Bachet, on entendra donc vos reportages tout au long de l'émission, mais aussi un petit entretien que m'a accordé un économiste français qui revient du sud Ubangi.
À
Alors je vais vous poser à tous les trois, Alki Tangier, Baraka Kabemba et Bampunga, la même question très générale pour introduire cette émission. Après on approfondira évidemment de la place qui est la vôtre aujourd'hui dans la société congolaise. Et au vu de vos différentes expériences professionnelles, quel regard portez-vous sur la situation économique de votre pays, Alki Tangier ?
Merci beaucoup. Le regard que l'on porte sur la situation économique, c'est un regard de regret profond, dans la mesure où nous sommes dans une situation où 80% de notre population vivant en milieu rural ne bénéficie pas du tout de la gestion du pays. On dirait que c'est un pays dans un autre pays. Et lorsque vous regardez tous les indicateurs, très malheureusement, ils montrent clairement une disparité générale. Et lorsque vous regardez un autre indicateur qui est celui du chômage, nous sommes dans un pays avec 95% du chômage, si je considère comme emploi l'emploi officiel. Et dans ces conditions, il n'est pas possible de faire une politique publique fiscale qui puisse être en mesure de donner les incitatifs de solidarité. Nous sommes donc dans une situation où l'État ne joue même pas son rôle parce qu'il n'a même pas les moyens de jouer son rôle.
Hubert Punga, vous partagez ce constat de grande marginalisation économique de la plupart des Congolais ?
Bien sûr que nous sommes actifs sur le même espace vital. L'économie congolaise souffre d'une certaine déconnexion. Nous avons les dirigeants qui dirigent le pays de leur façon, alors que la redevabilité s'attendait à autre chose.
Qu'est-ce que vous appelez la redevabilité ?
Rendre compte de la gestion de la chose publique à ceux qui leur ont donné le pouvoir. C'est la population qui a donné le pouvoir, qui a délégué son pouvoir aux dirigeants du pays, qui doivent gérer le pays pour rencontrer les attentes de la population.
Mais vous voulez dire que les ressources économiques du pays ne sont pas gérées dans l'intérêt de la population ? C'est ça que vous nous dites ?
D'abord, d'une façon générale, les ressources sont exportées à l'état brut ou semi-ouvrées, donc sans valeur ajoutée. Il n'y a rien qui est produit alors pour la population. Nous exportons les emplois des enfants du pays pour importer le chômage des autres. Quand nous exportons en termes de tonnage 2 ou 4 bateaux de grumes pour importer 2 conteneurs de mobilier qui coûtent plus cher que les 2 bateaux de grumes, vous voyez qu'on n'a rien produit comme valeur ajoutée sur place. Et pour financer l'acquisition de ce mobilier, il va falloir s'endetter à l'extérieur. Il y a cette déconnexion-là. C'est dont la population souffre le plus, c'est l'exclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises. Ils n'ont pas accès au financement bancaire. Ça, c'est encore une question très sérieuse à aborder.
On en parlera certainement au cours de l'émission. Baraka Kabemba, vous, quel regard portez-vous sur l'économie ?
Moi, j'ai un regard de consultant, évidemment. Donc, je suis résolument congo-optimiste. Le constat est clair, je pense que M. Kitenge et M. Mpunga ont dépeint une fresque assez réaliste de la RDC. Ceci étant dit, je pense qu'il faut aussi regarder ça dans la ligne de temps, donc voir comment cette économie a évolué depuis la colonisation, sous le mobutisme et sous le nouveau régime depuis une vingtaine d'années. Moi, je suis rentré au pays il y a environ 8 ans. C'est clair qu'il y a des choses à faire, mais moi je vois les choses progresser, peut-être pas au rythme que nous voulons, mais je vois des choses positives qui se passent. Donc moi je préfère regarder
ça. Par exemple ?
Ben, je vois le taux de bancarisation qui continue à évoluer, je vois des secteurs comme la télécommunication qui évoluent, et je vois que le secteur privé reprend parfois certaines responsabilités pour faire évoluer l'éducation des jeunes Congolais, etc. Donc moi, je préfère regarder ça d'un regard, disons, quel est le rôle du secteur privé pour essayer d'améliorer les choses. Le défi de la RDC est vraiment de taille. Le vrai problème, je pense, de la RDC, c'est qu'il n'y a pas de comparatif véritable avec ce pays. Donc je pense qu'il faut qu'on invente une nouvelle façon de voir les choses et comment faire évoluer l'avenir de ce pays.
Alki Tangier.
Oui, justement, parce que notre situation est si particulière et heureusement que nous avons du potentiel, nous sommes ici assis sur le pays qui a le plus grand barrage hydroélectrique en termes de potentiel sur un seul endroit. Nous parlons de Inga. Et lorsque vous prenez l'ensemble du potentiel hydroélectrique congolais, on est au-delà de 100 000 mégawatts de potentiel. Et lorsque vous le mettez en équivalent pétrole, ça dépasse la production de l'Angola, ça dépasse la production du Nigeria.
Et si vous... sont les deux grands producteurs de pétrole de l'Afrique, continent.
Oui. Et si vous ne faites rien avec ça, c'est un peu comme si vous condamnez vos populations à un malheur programmé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que au regard de notre écosystème tel qu'il se présente aujourd'hui, on a le devoir d'avoir un plan stratégique de développement. Très malheureusement, on ne l'a pas de manière générale et on ne l'a même pas sur le plan minier qui se trouve être notre assiette le plus visible.
Alors, on va aller sur le terrain avec un premier reportage de David Baché. Pour beaucoup de Congolais, la vie quotidienne est difficile. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, à Lubumbashi, dans un quartier populaire où une habitante s'est confiée à David Baché.
Moi, je m'appelle Mwepu Chouchou. J'ai 38 ans. Nous sommes chez moi, dans ma maison, quartier Kitumaini, commune Kamalondo, ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga. Comme vous m'avez trouvé, j'avais déjà préparé les sombés. J'avais acheté les feuilles de manioc, j'ai pilé, il y a l'oignon, il y a l'ail, il y a aussi le poivron.
Ça sent très bon.
C'est vrai. Nous avons un marché toujours ici dans notre quartier, c'est là où nous achetons tout ça. Les sombés, une botte coûte 300 francs, comme c'est la période sèche. Pour préparer, j'avais acheté 3 bottes séchées.
Vous, est-ce que vous travaillez? Est-ce que votre mari travaille?
Oui, mon mari travaille. Moi, je suis une femme ménagère. Je suis toujours à la maison.
Il fait quoi, votre mari?
Il est un agent de l'État, il travaille au programme national des Légions aux frontières.
Et il gagne suffisamment?
Pas tellement, mais nous nous débrouillons. Comme moi, je ne suis pas main croisée, je prépare le moncoyo, c'est le jus. On prépare la bouillie là et on met des quelques racines. J'y mets le sucre dans des sachets pour vendre. Et j'élève aussi les volailles, le poussin de chair.
Vous voulez montrer vos poulets?
Vous pouvez, il n'y a pas de problème.
Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir plusieurs activités comme ça, en plus du travail de votre mari.
Comme ça, nous sommes appelés à ça. Si vous ne faites rien, toi, si vous êtes main croisée, vous ne saurez pas manger tous les jours. C'est un poulailler de fortune. Hein.
J'espère qu'il va vous apporter la fortune.
Oui, ça va. Là, j'avais acheté, c'était 50%. Il y avait un qui était mort. Jusque-là, c'est 49. Quand même, ça compense quelques dépenses là.
Vous avez des enfants?
Oui, j'en ai 6.
Félicitations.
Merci. Il y a 4 qui étudient, les 2 là sont encore tout petits là. Ce sont des frais à dépenser. Il y a des moments où c'est compliqué et surtout si mon mari n'est pas encore payé, c'est difficile.
Il y a l'eau aussi, il y a l'électricité?
Ici chez nous, nous avons l'électricité, mais l'eau, nous prenons ça ailleurs. Pas ici dans notre parcelle, il n'y en a pas.
Donc vous n'avez pas l'eau et non, l'électricité, non. C'est
l'électricité,
cher?
L'électricité, il y en a, oui, c'est cher. Comme je suis seule dans la parcelle, je paye 13 650 francs par mois. C'est beaucoup par rapport à ce que mon mari gagne.
Qu'est-ce que vous avez comme budget chaque mois?
Environ...
Avec toutes vos activités?
Environ 200 dollars par mois, 200 dollars.
Justement, vous parliez en francs, maintenant vous parlez en dollars. Qu'est-ce que vous payez en dollars? Qu'est-ce que vous payez en francs?
Non, nous payons des histoires toujours en francs congolais, pas en dollars. La nourriture là, nous payons d'habitude en francs congolais. Mais quand il s'agit des histoires ménagères, par exemple la télévision, la radio, des histoires pareilles là, on le paye parfois en dollars. Parfois en dollars.
Et souvent on vous rend la monnaie en francs congolais?
Oui, c'est comme ça. Ça c'est les frettes, hein. Des tout petits là, poissons. Ça ne grossisse pas, hein. C'est toujours ça, c'est comme ça que Dieu les avait créés. On appelle ça les ndaka là. J'avais acheté ça au marché, j'avais acheté un sipa à 1500 francs congolais. J'ai mis les tomates, l'ail également. Et j'utilise l'huile. Et après, je vais donner ça aux enfants. Normalement, il faut manger 3 fois par jour. Le matin, les enfants déjeunent, à midi et le soir. Mais parfois, ils mangent 2 fois. Vous voyez, à cause de quoi? Manque d'argent. C'est ça notre quotidien, c'est ça notre vie.
Un reportage signé David Baché. 200 dollars par mois de revenus. Une vie économique, une activité économique du ménage qui s'effectue entre le dollar et le franc congolais, les deux à la fois. Donc ça veut dire dollarisation de l'économie. Et puis en même temps, un revenu insuffisant pour assurer 3 repas par jour à toute la famille. Qu'est-ce que ça dit, Al-Kitenji, de la vie de la population congolaise?
Moi, j'entends un mot qui me trouble de la bouche de cette jeune femme qui parle d'ailleurs plusieurs langues à la fois. Elle mélange le français avec du swahili, ce qui est très beau. Elle dit se débrouiller, mais malheureusement, le peuple est poussé à la débrouillardise. Ils peuvent même pas se projeter dans le temps. En fait, ils reproduisent exactement le comportement de l'État. L'État n'ayant pas un plan, une planification organisée, n'ayant pas une vision claire, ne donne pas d'espoir aux gens. Les gens, au quotidien, se débrouillent pour survivre. Et c'est dans ces conditions que nous sommes une communauté contre-performante de manière globale. Et je crois que ça appelle l'attention particulière des gouvernants, surtout ceux qui aspirent à gouverner le pays demain, à le faire différemment de manière planifiée, organisée, mais surtout inclusive. Moi, je dis une seule chose, et elle est très simple. On ne peut pas être une économie qui importe jusqu'au cure-dent. On ne peut pas être une économie qui importe de la nourriture alors que nous avons des terres arables. On ne peut pas être un pays qui expose tous nos emplois et tout notre système fiscal à l'exportation alors que nous importons tout ici. Et il est important que notre capital humain soit préparé aux défis de demain. Nous sommes dans un pays où les gens ne sont pas suffisamment préparés aux défis du jour. Et je pense que la question de la dollarisation de l'économie est très grave dans ce pays. Elle indique de quelle manière notre économie est tournée vers l'extérieur. Nous avons une économie totalement extravertie.
Hubert Punga, il y a un an, le gouverneur de la Banque centrale de la RD Congo lançait un cri d'alarme, inflation galopante, réserve de change au plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé en un an sur ces deux fronts? Est-ce que la situation s'est améliorée?
Je ne pense pas qu'il y ait eu d'amélioration. Nous allons parler de la stabilisation de taux de change. À quel niveau et contre quel revenu? Les niveaux de revenus et le pouvoir d'achat. C'est ça le plus grand problème. La dame qui vient de parler a parlé dans la province de Katanga, la province minière du pays. C'est là où l'activité informelle s'est beaucoup développée depuis la chute du secteur minier. Donc vous voyez que l'impact de l'informel fait beaucoup plus vivre les ménages que l'emploi officiel. C'est beaucoup très important. Mais malheureusement, ce secteur officiel, tout comme le secteur privé, souffre de sous-financement. L'économie congolaise est autofinancée. Le secteur privé peut le prouver.
Qu'est-ce que vous appelez autofinancé?
Même les investissements sont financés par le propre capital des gens. Donc, une économie d'autofinancement, c'est une économie qui tend vers la pauvreté. D'où vient cette crise de financement à l'économie?
Mais pourquoi est-ce qu'une économie qui s'autofinance est tournée vers la pauvreté? Parce que les banques n'interviennent pas, parce qu'il n'y a pas de crédit, parce qu'on ne peut pas investir, c'est ça?
Voilà, c'est ce que je veux exprimer. Le financement bancaire a manifesté ses limites. Les dépôts bancaires, sur base desquels on tire les fonds libres, que l'on place en crédit sont très bas. Quels sont les besoins réels de l'économie congolaise? C'est sur cette base-là, la banque centrale qui est l'autorité monétaire, à travers les banques commerciales par voie desquelles ils placent du crédit, a montré ses limites. Et puis nous n'avons pas le marché des capitaux dans ce pays. C'est ça le grand problème. Et nous avons une couche de la population qui s'est outrageusement enrichi, qui travaille effectivement, mais sur un marché où il y a une crise d'emploi, ils sont en position de monopole.
Il y a un monopole de la richesse d'une petite élite, Baraka Kamemba, dans le pays?
Moi, je pense que là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Je crois que pour paraphraser mon collègue, il y a un véritable assèchement des liquidités dans le circuit de l'économie formelle. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est tous focalisés sur une économie extractive. Je n'ai pas, en tout cas, à ma connaissance, avec mon peu d'expérience, d'exemples de pays en Afrique dont l'économie est tournée sur les industries extractives, pétrole ou mines, qui ont réussi, qui sont des exemples aujourd'hui. Donc je pense que la question est plus de réfléchir sur une diversification de l'économie. Certes, c'est une rente dont on ne peut pas se passer, mais elle doit servir d'effet de levier pour développer les autres pans de l'économie. Je parle de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, etc. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le Congolais, la jeune dame qu'on a entendue tout à l'heure, son problème, c'est quoi? Se soigner, s'éduquer,
se nourrir,
travailler, voilà. Et on revient toujours au même point, le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait pour améliorer le pouvoir d'achat du Congolais? Parce qu'en réalité, dans un pays comme 80 millions d'habitants, il suffirait de faire évoluer le pouvoir d'achat des Congolais de 1 point ou de 2 points pour changer leur avenir.
On va aller voir un autre exemple des difficultés que rencontre l'économie congolaise dans la province du Sud-Ubangi. Une équipe d'économistes mène des recherches depuis un an. Parmi ces chercheurs, Étienne Le Rossignol de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que j'ai rencontré à Paris il y a quelques jours, et qui commence par décrire la ville de Gemena, la capitale du Sud-Ubangi.
C'est une ville dans laquelle il n'y a pas de route bitumée, il n'y a pas d'asphalte, il y a très peu d'infrastructures évidemment, pas d'électricité. L'économie informelle est très présente en fait. On voit le matin, si on part très tôt de Gemena et qu'on part vers la province, vers les zones rurales, on voit en fait les femmes venir au marché tous les matins. Donc c'est un défilé qui est presque ininterrompu de femmes portant leur pondu, leur manioc, jusqu'au marché de Gemena qui se tient tous les jours. Donc c'est un approvisionnement évidemment, un flux constant. Vu qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de stockage. Ensuite, au niveau des échanges, oui, il y a quelques échanges qui sont faits, mais grâce à des ONG, entre Gemena et Kinshasa. Parce qu'évidemment, le prix du maïs est bien plus élevé à Kinshasa, le prix du manioc aussi, etc. Donc il y a des bateaux qui sont chargés à partir de produits de Gemena, emmenés jusqu'à Kinshasa via des ONG. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est fait par des ONG, c'est pas fait par les entreprises. Donc ça, c'est intéressant, parce que le risque est énorme, en fait. C'est surtout ça. Le problème, c'est qu'on peut pas emprunter, pas de marché du crédit. Donc en fait, les capitaux sont emmenés d'extérieur, on rachète les produits sur place et on les revend à Kinshasa, le profit étant réparti par la suite. Et ensuite, si on pense aux échanges entre Gemena et sa campagne, disons que je pense qu'il y aurait un buffer, il y aurait un arrondissement autour de Gemena d'une 5, 6, 7, 8 kilomètres dans lequel les gens peuvent avoir accès au marché, peuvent emmener le matin à pied leur production. Mais le problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on part au-delà de cette zone, on se retrouve dans une région dans laquelle les gens n'ont pas accès au marché. Ça veut dire qu'en fait, nous, on discute avec eux et leur principal problème, c'est ça, c'est qu'ils produisent, ils ont une bonne production, mais par contre, ils ne peuvent pas la vendre. Et lorsqu'ils peuvent la vendre, ce sont les acheteurs qui viennent à moto, etc., mais qui imposent leur prix. Et donc ça, c'est un des principaux problèmes de la région, je pense, pour les agriculteurs.
Ils n'ont pas de moto non plus, pas de vélo?
Non, évidemment. Si, vélo, il y a quelques vélos, mais disons 15 km avec les produits, etc., c'est toujours quelque chose de compliqué. Et je pense qu'il faut aussi mentionner le prix de l'essence. Le prix de l'essence qui est en ce moment 2300 francs congolais, ça doit faire 1,30€, 1,40€ au litre. Voilà, dans un pays où les gens vivent avec moins de 1,25$ par jour.
C'est exorbitant.
Exorbitant, oui.
Étienne Le Rossignol, rencontré à Paris, et qui nous parlait donc de la province du Sud-Ubangi, de Gemena. Tout à l'heure, vous nous disiez, Hubert Ponga, avec beaucoup d'éloquence et d'émotion, ce manque de crédit, cet autofinancement, on retrouve tous ces problèmes-là.
Je tiens d'abord à vous informer que la province de l'Équateur souffre de la présence de banques. Elle est la plus déserte. Le parc bancaire dans cette province est presque désert. Ceci fait que la capillarité financière y est nulle. Quand il y a cette production, et je vous informe que la culture pérenne, la production industrielle est très élevée dans ce coin du pays. Mais quand on parle d'une crise des infrastructures, ce qui signifie que toute la production n'est pas évacuée vers les centres de commercialisation. Parlant des centres de commercialisation, c'est pour les secteurs locaux. Toutes ces cultures doivent être évacuées vers Kinshasa. Si on parle des motos et des bicyclettes, ce n'est pas pour évacuer vers le marché, même la quantité destinée à la consommation locale. Donc, vous sentez que tout est bloqué là-bas. La chaîne de la valeur agricole, agro-rurale, est en souffrance sur tout le périmètre économique, agro-économique du pays.
Dans tout le pays?
Dans tout le pays. Les grands centres agricoles souffrent de problèmes d'évacuation.
Al-Kitendier.
Je donnais un chiffre tout à l'heure et je voudrais y revenir. 80% de la population congolaise vivent dans les milieux ruraux. 80% du budget de l'État sont dépensés en milieux urbains. Il y a donc là une espèce d'apartheid d'État. En termes de mapping du service public, les milieux ruraux ne sont couverts par aucun service public réellement. En matière d'inclusion financière, c'est un désert total dans le milieu rural. En fait, la question aujourd'hui, c'est une question de la ruralité vis-à-vis de l'urbanisme et de l'urbanité. Et il est important que dans la stratégie, dans la planification de l'État, on se rende bien compte que si on désire changer le devenir des Congolais, il faut commencer par ceux qui ont subi l'injustice totale depuis la période coloniale. Et il est important qu'on se rende compte que nous sommes 80 millions de personnes, il n'y a pas des citoyens et des sous-citoyens. Et je pense que si nous désirons toucher la compétitivité de l'État, il est important que nous atteignions la masse critique. La masse critique est avec le nombre. Si nous sommes plusieurs bras à travailler au bénéfice de l'économie nationale, ça pourra marcher. Je le dis et je le redis souvent, Avec 4,5 milliards de dollars pour 80 millions de personnes, même un prestidigitateur ne gérera pas correctement ce pays. Donc, il y a un paradigme à changer. Et ce paradigme, il est dans la qualité du capital humain, il est dans la qualité des potentiels que nous avons, ce que Baraka a appelé tout à l'heure les différents leviers qu'on peut utiliser pour être en mesure de planifier une véritable économie. Si on désire réellement donner une chance à ce pays, il faut se donner 15 ans pour bondir.
L'une des autres manières de survivre dans ce pays, c'est d'exploiter les ressources du sous-sol. On en a parlé en filigrane depuis le début de l'émission. Et il n'y a pas que de grandes compagnies minières, dont nous parlerons tout à l'heure, qui exploitent les richesses du sous-sol. Il y a aussi des mines artisanales qui mettent sur le marché 20% de la production de la RD Congo. C'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé David Bachet dans la province de Lubumbashi.
Ils sont trois, deux hommes, une femme, qui fouillent la terre du site de Tocotins, commune de Kambove. Une mine artisanale située à 150 km au nord de Lubumbashi, au cœur de la ceinture du cuivre qui traverse le Lualaba, le Haut-Katanga et se prolonge jusqu'en Zambie. Rencontrés à l'extérieur de la mine, ils acceptent de témoigner.
J'ai 30 ans, maintenant 5 ans que je suis creuseur. J'étais infirmier. Vous me payez 50 dollars, mais avec la famille, ça ne suffisait pas pour me payer la maison. C'est trop cher ici au Congo.
Le site où vous travaillez, vous êtes nombreux ?
Oui, oui, nous sommes plus de 1000. Nous sommes nombreux. Bon, parfois, quand il y a des morts, les gens quittent d'abord. Dès qu'il y a du calme, les gens reviennent encore.
Nikuna, 40 ans.
Elle a 40 ans. Elle a 10 ans, elle fait aussi le creusage dans les sites artisanaux. Ils utilisent des barres de mine pour creuser afin de trouver les minerais de cuivre et les amener au dépôt pour les revendre. Si nous ne travaillons pas, les enfants ne seront pas mangés, les enfants ne seront pas scolarisés.
J'ai 35 ans.
Je n'ai pas d'emploi, je fais seulement le creusage. C'est-à-dire nous utilisons nos barres de mine, les bêches pour creuser jusqu'à atteindre même 25 mètres. Une fois que vous êtes sur le filon, directement vous prenez ces minerais-là et vous allez vendre.
C'est quel minerai ?
Atomique à cuivre, or, cobalt, coltan.
Depuis combien de temps est-ce que vous faites ça ?
Au moins 15 ans.
Les mineurs artisanaux sont théoriquement organisés en coopérative. Ce sont elles qui revendent collectivement les minerais à des négociants, en fonction de la teneur des minerais extraits et des prix du marché. Le tout dans des zones d'exploitation artisanale encadrées par les services de l'État, afin d'assurer des conditions de travail décentes et des revenus justes. Mais pour ces creuseurs, rien de tout cela.
On ne gagne presque rien, on creuse beaucoup, mais pour vendre. Les Chinois nous volent beaucoup. Par jour, 10 000 francs, tu peux gagner 10 000 francs, tu peux gagner peut-être 5 000, 15 000. Bon, c'est comme ça.
Et pourquoi est-ce que vous dites que les négociants, les Chinois, comme vous dites, vous trompent ?
Avec leur machine à pourcentage.
Quand ils calculent la teneur du minerai.
Oui. C'est réglé, ils nous volent. À partir de là aussi, les poids, vous amenez les sacs qui vous pèsent 100 kilos, mais dès que ça arrive chez les Chinois, ça pèse 30 à 50 kilos.
Vous ne pouvez pas vendre ailleurs ?
Dès que vous discutez, comme ils sont un peu sécurisés par l'armée, alors c'est difficile. Les gardes présidentiels sont à côté d'eux. Vous discutez, ils vous poussent, ils vous chassent.
Vous travaillez avec une coopérative ou vous êtes tout seul ?
Nous sommes tout seuls. On crée seulement, nous sommes tout seuls.
On dit que les prix ont augmenté. Est-ce que ça a motivé d'autres gens à venir travailler à vos côtés ?
Chez les Chinois, les prix ne montent jamais. Nous savons très bien qu'il y en a qui sont informés sur les prix qu'on a sur le marché mondial. Mais nous, ici, les Chinois sont en train de nous imposer le prix d'achat.
Mais normalement, ce travail, il est encadré. Il existe des coopératives.
Pour les Chinois, il y a des coopératives.
Les Chinois ne nous encadrent pas, ils ne nous donnent même pas des tenues, même pas le matériel de travail. On leur a donné la responsabilité de ces concessions-là. C'est-à-dire, vous travaillez, même si vous mourrez, ce n'est pas leur problème. L'essentiel est que vous amenez la matière première, vous les vendez. Il n'y a pas d'organisation ou une coopérative où les creuseurs s'organisent, non. Si tu oses seulement de t'organiser autrement, l'État va t'arrêter. Il faut seulement donner ces minerais aux Chinois.
Et vous savez à qui ces minerais sont revendus ensuite ?
C'est eux-mêmes
qui savent là où ils amènent leurs minerais. Nous, on ne sait pas. On s'arrête seulement là où on les vend et on ne connaît pas la suite.
Ce sont des intouchables. Tu ne peux pas toucher un Chinois. Ils vous marchent avec des gardes présidentiels. Nous souffrons beaucoup.
Qui sont ces Chinois, comme les appellent les creuseurs? Pour qui travaillent-ils? Si un site n'est pas exploité par une coopérative de mineurs artisanaux, cela signifie que c'est une entreprise minière qui en a la charge et qu'un permis a été délivré par l'État. Thierry Kambola est le chef d'antenne à Lubumbashi de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Un processus qui implique à la fois l'État congolais, les entreprises et la société civile, avec l'engagement de rendre public tous les contrats miniers du pays.
À ce jour, sur le site de Tocotins, il n'y a pas d'entreprise qui exploite ce site. Nous n'avons aucune information sur les entreprises qui exercent sur ce site.
Aucune entreprise, aucun contrat passé avec l'État.
Lorsque les paiements significatifs sont payés à l'État, nous devons les divulguer. À ce jour, nous n'avons aucune information sur un paiement spécifique qui provient de ce permis.
Journalistes, sociétés civiles, acteurs de coopératives minières exclus des sites artisanaux, ils sont nombreux à Kambove à affirmer que c'est la famille présidentielle qui tire les bénéfices de ces minerais, sans apporter de nom ni de preuves. Ils se fondent notamment sur le fait que c'est la garde républicaine, théoriquement dévolue à la sécurité du président Joseph Kabila ou à certains sites stratégiques de la République, qui sécurise cette mine artisanale. La voix de cet acteur du secteur des mines a été modifiée.
Lorsque vous voyez la garde présidentielle les faire baisser dans les mines, c'est très inquiétant. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, parce que la garde républicaine est censée rester dans les résidences officielles ou bien dans les sites qui concernent la présidence de la République comme institution. Je ne vois pas pourquoi la garde républicaine doit devoir se trouver dans une mine artisanale.
Sollicité par RFI, le gouverneur du Haut-Katanga n'a pas souhaité accorder d'interview et le directeur provincial du ministère des Mines n'y a pas été autorisé.
Un reportage signé donc David Bachet. C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons de l'économie de la RDC avec trois invités à Kinshasa, les économistes Hubert Ponga et Al Kitenge et le consultant chez EY, Baraka Kabemba. Il y a tellement de choses dans ce reportage qui est tellement riche. Baraka Kabemba, qu'est-ce qui vous inspire?
Mais je pense que nous avons encore là un exemple criant de l'exploitation de la précarité, de la pauvreté des gens. Parce que si ces gens au Katanga sont obligés de s'adonner à ce genre de travaux, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Et aujourd'hui, on sait que les mécanismes pour lutter contre ce genre de pratiques existent. Les mécanismes de traçabilité, vous avez parlé de l'ITIE. Je pense qu'il y a un véritable problème de volonté aujourd'hui pour mettre en place et changer les choses. Aujourd'hui, il faut régler les problèmes de conflit d'intérêts. Vous avez des personnes aujourd'hui, effectivement, qui sont clairement impliquées dans la chaîne. Et qui sont des gens qui prennent des décisions dans le pays. Donc fatalement, ça c'est difficile d'organiser, d'essayer d'assainir une filière. Et donc voilà, les solutions sont connues. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une vraie volonté et les choses peuvent changer rapidement.
Al-Kitenjik.
Je suis gêné à entendre ce que j'ai entendu et je souhaite ne pas faire un commentaire sur la présence de la garde présidentielle à ce genre d'endroit. Le seul message que je pourrais passer, c'est que c'est des choses qui devraient s'arrêter le plus vite possible. Parce que même du point de vue de l'image de marque de la République, ce n'est pas nécessairement le meilleur message à passer. Par contre, j'ai envie de dire que aujourd'hui, nous parlons d'un petit coin où il y a 1 000, 2 000 exploitants miniers. Sur toute l'étendue de la République, on a à peu près 2 millions d'exploitants artisanaux qui travaillent dans des conditions précaires. Et la seule chose que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que la première partie qui a été touchée par l'exploitation minière artisanale, c'est le centre, le Kasaï. Tout le monde a vu que très rapidement, ils ont perdu en termes de compétitivité scolaire et la pauvreté s'est attaquée de manière assez grave à cette partie. Mais en reproduisant exactement le même modèle, consacré d'ailleurs malheureusement dans le code minier, on se rend compte qu'on a fait deux choses. La première, on a créé les mêmes dégâts du point de vue de la société et de l'organisation, mais on a surtout créé 140 groupes armés. Nous avons dans ce pays à peu près 140 groupes armés qui se nourrissent de l'exploitation artisanale illégale. Mais en fait, très malheureusement, c'est consacré par le code minier et malheureusement supporté par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui jouissent d'un conflit d'intérêts malheureux et qui, malheureusement, alimentent cette situation qui déstabilise toute la République. L'exploitation minière artisanale n'est pas du tout une réponse à quoi que ce soit. Les mines sont censées être exploitées de manière industrielle et de manière correcte. Tout ce qu'il faut faire, c'est de former les gens pour qu'ils attrapent des boulots et du travail de qualité et que la compétitivité individuelle et collective soit améliorée. Moi, je pense simplement que autant on se débrouille, on est artisanal, y compris dans la gestion minière, on est artisanal au niveau de la gestion du pays. Et je pense qu'il faut professionnaliser.
On vient de parler des mines artisanales. Il y a un autre pan entier de l'économie du pays qui est géré par des grandes compagnies. C'est les mines industrielles, j'allais dire, les grands gisements miniers. Il s'est passé quelque chose d'important sur le plan économique et politique il y a quelques mois. C'est le 24 janvier dernier, le Parlement congolais a adopté un nouveau code minier. Parmi les principales mesures de ce texte, l'augmentation des taxes dont doivent s'acquitter les grandes compagnies qui opèrent ici. Mais ces compagnies résistent bec et ongles à cette mesure. Écoutez à ce sujet le reportage qu'a réalisé David Bachet, toujours dans la région de Lubumbashi.
Une centaine d'industriels miniers exploitent le sous-sol de la RDC. Les principaux, l'anglo-suisse Glencore, le sud-africain Randgold, le canadien Ivanhoe ou encore les chinois Zijin et China Molybdenum. La redevance que ces multinationales doivent verser à l'État congolais était de 2%. Elle est dorénavant fixée à 10%, 5 fois plus, pour des minerais dits stratégiques comme le cobalt et le cuivre. Principalement extraits dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, ils représentent 80% des revenus d'exportation du pays. Pour Théophile Bokouma, directeur de l'ONG VPPEE à Lubumbashi, il était temps.
Depuis 17 ans ou 18 ans, ils ont bénéficié des exonérations, ils ont bénéficié des avantages. Les taxes étaient trop bas parce que l'ancien code minier donnait beaucoup plus d'avantages aux investisseurs. Il y a eu également beaucoup d'exonérations qu'on avait accordées aux entreprises et d'autres avaient des contrats léonins avec le gouvernement. Ces codes n'étaient pas favorables pour l'État et les communautés impactées.
Le nouveau code minier prévoit également un impôt spécial de 50% sur les gains exceptionnels ou super-profits et une micro-taxe destinée aux communautés vivant à proximité des mines. Aucune des nombreuses entreprises minières sollicitées par RFI n'a accepté de s'exprimer. Éric Monga est président de la Fédération des entreprises congolaises pour le Haut-Katanga et lui-même sous-traitant dans le secteur minier.
Pour les grandes entreprises, c'est une catastrophe parce qu'elles ont perdu la stabilité, elles doivent payer un peu plus. Au niveau des entreprises minières, elles se disent « nous ne sommes pas des mères Teresa, nous avons investi, nous voulons avoir une stabilité sur notre investissement et nous voulons avoir notre argent ».
Certaines entreprises menacent de recourir à un arbitrage international pour protéger leurs avantages. D'autres espèrent négocier des ajustements au cas par cas. Pour autant, personne n'imagine les industriels réduire leur activité, encore moins quitter le pays. D'abord parce que les cours des minerais flambent, plus 13% l'année dernière pour le cuivre, plus 127% pour le cobalt, dont la demande explose pour fabriquer les batteries des voitures électriques. Ensuite, parce que la RDC est incontournable, le pays abrite plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt.
Un reportage signé David Bachet, Hubert Ponga. Le cobalt, c'est un nouveau miracle ou c'est une nouvelle malédiction pour la RDC ?
Pays outrageusement riche en potentialité minière, avec une population outrageusement pauvre. Je souhaiterais parler, ou bien ne fût-ce que de citer, des différentes parties prenantes dans l'industrie minière. Nous avons suivi les deux reportages des journalistes de la RFI. Vous avez entendu parler de l'État d'abord, des grandes sociétés d'exploitation minière, de l'exploitation officielle enfin, mais... on a parlé de l'exploitation artisanale où le travail a mis tout bonnement de côté l'humanité et ce n'est plus le travail. Ce n'est plus le travail. Vous avez entendu, toutes les conditions sont réunies telles que c'est lui qui descend dans les mines, l'artisan exploitant qui va dans les mines se voit arracher le produit.
C'est de l'esclavage ?
Il n'y a pas un autre mot pour le dire. Il se voit arracher le produit. Et quand il veut bouger, le premier comptoir où il arrive, on lui arrache. Ce sont des intouchables qui sont arrivés. Ce sont des opérateurs qui sont incontrôlables, même par l'État. Cette classe d'opérateurs, les Chinois dont il a parlé, dans tous les secteurs économiques, ils sont très actifs. Mais je défie celui qui me dira... dans quelle banque il les rencontre? Ça, c'est encore une question. Parlons maintenant de toutes ces grandes sociétés d'exploitation minière pour arriver au nouveau code minier. D'abord, nous parlons du nouveau code minier parce qu'on a remplacé l'ancien de 2003. Dans quelles circonstances est-ce que ce code a été négocié pour remplacer l'ancien qui existait? Et c'était sous pression de la Banque mondiale. Et c'est dans les circonstances où s'est trouvé le Congo économique. Mais, qui sortait de la guerre.
Hubert Ponga, est-ce que vous pensez que ce nouveau code minier peut être une solution à l'impécuniosité de l'État congolais?
Ça, c'est une autre question, c'est un autre volet.
C'est
la gouvernance fiscale. Là, c'est une question de gouvernance fiscale. Le code minier lui-même, c'est une question de gouvernance économique et la régulation. Pour ce qui est des revenus, tiré de ce côté, c'est une question de gouvernance fiscale qui cherchera beaucoup de solutions après.
Al-Kitenji ?
Je pense qu'en ce qui concerne l'exploitation industrielle des mines, il est important de mettre deux postulats. Le premier, c'est que les ressources naturelles n'appartiennent pas à des politiciens. Elles appartiennent à la population congolaise. Et donc, il y a une responsabilité vis-à-vis de la communauté nationale qu'il faut assumer. Et quand les opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux, viennent en termes d'exploitation, elles doivent savoir qu'il y a une contrepartie contre la prise de ces minerais. Il est important qu'un minimum d'éthique se fasse présente au niveau de la responsabilité de ces opérateurs économiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que, sur la place publique, les grands opérateurs économiques miniers se taisent. Parce qu'ils savent très bien que si on leur pose un certain nombre de questions, ils auront difficile à répondre. La première des questions à laquelle ils ne sauront pas répondre, c'est est-ce que leur comptabilité reflète la réalité de leur exploitation? La réponse est tout à fait non, tout le monde le sait. La deuxième des choses, est-ce qu'ils se soustraient à des obligations fiscales par le commerce triangulaire? Tout le monde sait que c'est ça la réalité. Encore une fois, maintenant, on revient à toutes les questions de gouvernance. À partir du moment où l'État est faible vis-à-vis de ses opérateurs économiques, on peut encore un peu s'amuser. Mais je crois qu'il est temps aujourd'hui, avec le nouveau code minier, de remettre les choses à plat et d'essayer de trouver un mécanisme d'équité qui permette à la fois aux opérateurs économiques de gagner de l'argent, de faire du retour sur investissement, mais également à donner à ce pays ce qu'il lui prend en contrepartie. Et c'est très important.
Baraka Kabemba, quelle est la solution pour mieux gérer cette manne minière dont la RDC est si riche?
Mais je rejoins un peu ce que monsieur Mponga a dit. Je pense que c'est une question de gouvernance. Encore une fois, sur la question du code minier, je crois que tout dépend de la grille de lecture qu'on veut bien prendre. Du côté des opérateurs et investisseurs, il y a la logique du marché, il y a la logique du profit, qui peut devenir très extrême, et du côté de l'État congolais, c'est évident. Le législateur, dans l'esprit du nouveau code minier, c'est d'équilibrer un peu mieux les choses. Donc maintenant, l'applicabilité, comment ça va se faire, et toutes les questions de gouvernance autour de ça, c'est là le vrai débat, je pense. Et là-dessus, je pense qu'il y a du travail.
Alors le secteur privé, c'est pas seulement ces grandes entreprises, c'est aussi un certain nombre de PME dans le pays qui rencontrent toute une série d'obstacles pour se développer. Écoutez ce qu'a confié à David Bachet, le vice-président pour les PME de la FEC, la Fédération des entrepreneurs congolais, Dieudonné Kassembo, par ailleurs administrateur gérant de la société Gécotran.
La première des attentes serait l'amélioration un peu de la fiscalité, qu'on ait une fiscalité qui corresponde aux petites et moyennes entreprises congolaises. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons près de 80% d'opérateurs qui sont des PME qui évoluent dans l'informel. L'argument qu'ils utilisent sont les tracasseries des opérateurs qui voudront éviter un peu les taxes énormes et l'impôt qu'on est en train de prélever sur eux. Et ce qui fait que la plupart souhaiteraient disparaître.
Disparaître des radars.
Oui, disparaître des radars, étant donné que ce sont le plus ceux qui sont visibles, qui sont appelés à supporter ces taxes qui sont énormes.
Aujourd'hui, à quel niveau s'élève la fiscalité pour les entreprises?
Quand on va demander à une petite moyenne entreprise de payer 40% d'impôts, pendant qu'elle se recherche encore, c'est vrai qu'il y a ces problèmes récurrents de financement, et vous lui demandez qu'il puisse payer le même taux d'IBP que payent, par exemple, les grandes entreprises. Vous comprenez?
IBP.
Impôt sur les bénéfices. Donc, avec une fiscalité qui soit adaptée aux PME, ils pourront à ce moment-là entreprendre correctement.
Une autre inquiétude exprimée par les banques, par les partenaires de la RDC, c'est l'instabilité politique, les questions de gouvernance également et de transparence dans les passations de marché. Est-ce que cela, au niveau des PME, vous le ressentez?
Nous les ressentons beaucoup plus quand nous avons certains de nos membres qui qui se plaignent par rapport aux dettes intérieures. C'est-à-dire que vous prestez, vous fournissez, vous arrangez les routes, vous construisez des écoles pour les comptes du gouvernement, mais le gouvernement n'est pas à mesure de vous payer.
C'était une interview de Dieudonné Kassembo par David Bachet. Alors on arrive tout près de la fin de cette émission. Baraka Kabemba, ce sont des problèmes que vos clients peut-être rencontrent régulièrement ?
Oui, absolument. Je pense que effectivement, on ne peut pas développer de pays sans petites et moyennes entreprises. Je pense que le développement d'une classe moyenne est un passage obligé pour développer le pays. Et effectivement, sans rentrer dans le détail, parce que j'ai un devoir de réserve, nous accompagnons un certain nombre de clients et petites et moyennes entreprises sur la structuration de leurs affaires dans le pays. Et les questions restent toujours, enfin, les mêmes problèmes reviennent. C'est l'accès au financement, évidemment. Le coût du crédit est extrêmement élevé dans ce pays. Donc, financer son fonds de roulement à des limites lorsqu'on parle d'autofinancement pour rejoindre ce que Monsieur Pong a dit. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir justement à ces sujets de financement. Et puis les problèmes de fiscalité. Aujourd'hui, le vrai débat est autour d'un élargissement de l'assiette fiscale plutôt que de l'augmentation systématique des taxes pour essayer de répondre en fait à des exigences et à des niveaux de collecte de revenus au niveau de l'État qui sont déconnectés de notre économie. Parce que simplement, une grande partie de l'économie se trouve dans l'informel et échappe totalement au système fiscal. Donc oui, clairement, il faut encore travailler sur ces questions, notamment sur les PME.
Al-Kitenjie.
Je pense que la question de la fiscalité est une question de contrat social. Il ne peut pas y avoir un pays qui n'a pas de fiscalité. Toute la question, c'est d'avoir une fiscalité équitable. Mon point de vue, c'est que aujourd'hui, ceux qui ne payent pas, ce n'est pas nécessairement les plus pauvres. Ceux qui ne payent pas, ce sont ceux qui s'enrichissent dans l'informel, et il y en a beaucoup. Et il est important que dans le cadre de la solidarité nationale, une certaine discipline collective s'installe, où tout le monde est logé à la même enseigne vis-à-vis des lois et règlements du pays. Et je pense aussi que notre code fiscal est complètement déréglé. Il faudrait que l'on ait un code fiscal qui correspond à ce que nous voulons faire de ce pays. Je vous disais tout à l'heure que 80% de notre population vivent en milieu rural et ils ne reçoivent aucun service public. Et à mon avis, toute notre stratégie, y compris notre fiscalité, devrait être de réveiller ce potentiel économique en y investissant de manière asymétrique, intensive, pour que nous soyons en mesure de faire contribuer ces citoyens à l'économie du pays tout en les enrichissant. Et je crois que ce serait une bonne manière de refaire le lien entre l'État et ses populations.
Hubert Punga, quelle est la réforme fiscale qui s'impose pour favoriser la vie de ces PME qui se réfugient dans l'informel ?
Je crois que la grande crise que connaît ce pays de ce côté, c'est l'absence d'un document de politique d'orientation générale. C'est ce qui fait que le pays est gouverné à vue. Parlons de la gouvernance fiscale, parce que j'aime distinguer la gouvernance fiscale de la gouvernance économique. Quand la gouvernance fiscale n'est pas performante, quand il n'y a pas de contrôle, quand elle écrase le secteur le plus résilient de l'économie. Dans le cas du Congo, c'est le secteur privé et surtout l'informel, les petites et moyennes entreprises, qui sont les plus résilientes. Mais elles souffrent d'une crise de financement et d'une très forte pression fiscale. En dehors de la pression fiscale, il y a aussi les tracasseries fiscales. Je distingue bien les deux. Parce que le poids sont différents et ils s'accumulent pour bloquer complètement la résilience du secteur. Toutefois est-il que la politique fiscale, on en a défini des multitudes, mais il y a une chose, définir et décider d'une politique fiscale est une chose, mais l'appliquer et s'y conformer est une autre. Et c'est ça la grande crise dans ce pays.
Alors des crises, il y en a beaucoup, malheureusement. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Al-Kitenjie, Hubert Punga, Baraka Kabemba, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à l'Institut français de nous avoir accueillis dans ce quartier de la Gombe, en plein cœur de Kinshasa. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr à l'onglet émission ou toujours sur l'application Pure Radio de vos téléphones mobiles. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.